Salut et bienvenue à toi, auditeur, auditrice. Si tu écoutes l'émission pour la première fois, sache que ce programme traite d'un domaine qui, s'il ne t'intéresse pas forcément, te concerne directement. Cette émission parle de physiologie. La physiologie, c'est cette discipline dite scientifique qui a pour objet de décrire le fonctionnement des êtres vivants. La physiologie, en grec, ça signifie un discours sur le corps, sur la nature du corps. Or, un discours ne tombe pas du ciel. Un discours, c'est une parole construite, créée, inventée, qui s'enracine dans un terreau, dans un passé particulier, et qui ne s'adresse pas à n'importe qui. La physiologie, c'est donc historiquement l'apanage des corps constitués, universitaires, scientifiques, des sachants, des docteurs et des élites. Et pourtant, son objet est incroyablement commun et partagé. À notre époque et dans nos régions, la physiologie, elle est le socle sur lequel s'est construite la médecine et sa façon de l'envisager et de l'exercer. La médecine de tous les jours, celle qui sépare ce qui est sain ou malade, normé ou anormal, qui traite, soigne et guérit. Ou bien, selon un terme sacrément équivoque du jargon, celle qui consacre une pathologie, qui assume que la maladie est là, en permanence, et que les médecins n'y pourront rien changer. La physiologie est donc ce socle de connaissances transmises et partagées que les médecins utilisent lorsque tu te sens souffrant ou souffrante, que tu te sens malade ou singulièrement en vie, sans forcément avoir les mots ni connaître le mécanisme qui permette de l'exprimer. C'est cela qui fait la raison d'être de ce programme, tenter de mettre des mots précis, choisis, sur ces impressions si vagues et pourtant si intenses que tu ressens de l'intérieur, sur la manière qu'a ton corps de te parler. Or, jusque-là, depuis que cette émission a démarré, je n'avais parlé que de moi. Je veux dire, j'avais parlé en mon nom, en ma qualité d'individu, de médecin, homme blanc de 38 ans, détenteur de par ma formation de quelques notions de physiologie que j'utilise quotidiennement en ayant très envie de les partager. Peut-être qu'il est temps, pour une fois, et pour un peu varier les plaisirs, de laisser la parole à d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui je te propose une fable spéciale. Un hors-série sous la forme d'un dialogue. Mon invité d'aujourd'hui est aussi médecin, aussi urgentiste comme moi, et aussi un individu qui a une manière singulière et située de concevoir sa discipline et son rapport au corps physiologique, au corps incarné, chez lui dans la danse, dans la précision du hip-hop, ou encore dans l'économie et la rigueur des randonnées de haute altitude. Tu écoutes une fable du squelette, épisode hors-série numéro 1, et mon invité s'appelle Nicolas Bantin. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thomas.
Bien, merci d'avoir accepté de venir participer à cette première émission hors série d'une fable du squelette. Comme je disais tout à l'heure, tu vas probablement un peu essuyer les plâtres de l'émission, mais je te remercie de te prêter à l'exercice. Donc voilà, je disais en introduction à l'instant qu'on se... Tu es donc médecin comme moi, on travaille dans le même service, dans le même hôpital, et on s'entend bien aussi, on se connaît très bien. Donc je voulais déjà te proposer de te présenter en quelques mots sur les trois plans que j'ai évoqués tout à l'heure, à savoir le fait que tu es médecin spécialiste, mais aussi que tes centres d'intérêt aussi se prolongent bien au-delà de la médecine. Donc voilà. Si tu veux bien t'introduire en quelques mots.
Merci beaucoup Thomas, merci infiniment pour ton invitation. Effectivement, nous partageons beaucoup de choses, entre autres notre activité médicale, puisque je suis moi aussi médecin spécialiste en médecine d'urgence depuis maintenant 8 ans. Je trouve que ma discipline médicale est très intense et elle a besoin d'être balancée par des activités qui me permettent de respirer et de récupérer de l'énergie. Puisque le métier de médecin est quand même très intense et nécessite beaucoup d'énergie. Et donc, je trouve cette énergie en faisant beaucoup de sport. Il y a quelques années, j'ai découvert la danse, notamment le hip-hop. Et il se trouve que maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années que j'ai poussé la porte d'un studio de danse qui m'a amené à me découvrir tant au niveau de l'expression scénique que de l'expression du corps, et ce un peu partout, puisque j'ai eu la chance de danser dans plusieurs salles à Bruxelles, mais aussi à l'étranger, sur Paris et aux États-Unis. Et c'est quelque chose qui est très très important pour moi.
Donc ça, c'est la pratique un peu artistique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est pourquoi je t'ai choisi comme premier invité, c'est que voilà, moi, j'ai l'habitude dans cette émission de corréler, on va dire, la description des phénomènes physiologiques qui sont un peu notre, je dis toujours que c'est un peu notre socle commun. Je dis que c'est la manière qui sous-tend le fait qu'on puisse, si on peut parler entre nous et avoir la vie qu'on a et avoir la possibilité d'échanger sur ce sujet, c'est qu'il y a un fond de mécanisme qui nous est propre en tant que organisme vivant et en tant qu'être humain en particulier. Et ça, c'est relié, on va dire, intrinsèquement, directement à notre vie de tous les jours. Et finalement, ça s'applique dans le fait que des choses qui peuvent paraître extrêmement triviales. J'avais fait toute une première série d'émissions sur la respiration, chose qui est en général considérée comme une sorte de béaba. La respiration, c'est tellement facile, c'est tellement inné qu'on s'en rend même pas compte. Et il y a plein de mécanismes comme ça physiologiques qui font qu'on s'en rend absolument pas compte. Et pourtant, c'est ce qui nous permet d'exister et de se parler.
Tout à fait.
Et donc, il y a la pratique de l'art, de la danse notamment, et du sport. Ce sont deux applications de ces mécanismes physiologiques particulières, mais qui procèdent exactement de la même chose. C'est une application parmi d'autres de ce que la physiologie nous permet d'exprimer. Et donc, moi, dans cette émission, je voulais, on va essayer d'un peu explorer, de ton point de vue et avec tes mots, qu'est-ce que c'est ce socle physiologique qu'on a appris en cours, qu'on a appris dans nos études, qu'on a étudié, sur lequel on a été interrogé, et comment ça se traduit dans notre pratique de tous les jours, qu'elle soit médicale ou qu'elle soit artistique, entre autres choses. Donc, moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est un peu de savoir c'est quoi tes souvenirs et c'est quoi la manière dont tu te souviens d'avoir appris cette discipline qu'est la physiologie qu'on a étudiée. Ça commence en cours de bio dans aux études secondaires et puis ça se poursuit de manière universitaire, surtout dans les premières années. Il faut savoir que l'apprentissage de la physio, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on étudie la médecine. Et après, ça cède le pas à de la physiopathologie. Bon, ça, on y reviendra. Mais en ce qui concerne tes années d'apprentissage de la physio, comment tu te souviens de l'avoir appris et comment tu te souviens qu'on te l'a appris? C'est surtout ça aussi qui est important.
Je me rappelle que c'était une matière assez dense à apprendre, alors qu'on sort des bancs d'école secondaire avec des notions de physique, de chimie, de mathématiques. Et puis, on arrive avec notre bagage en faculté de médecine et on a ce cours de physiologie qui est une grosse matière à apprendre et qui n'est pas forcément très digeste dans mes souvenirs. Ceci dit, au fil de l'apprentissage, c'était quand même très intéressant de se rendre compte à quel point le corps humain était une magnifique machine et de connaître plus en détail les fonctionnements cellulaires ou le fonctionnement global de notre corps. C'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup, beaucoup intéressé, même si c'était sur le fond quand même assez difficile à apprendre et à retenir.
En termes de quantité de matière, tu veux dire ?
Oui, tout à fait. En termes de quantité et puis en termes de notions, puisque c'est des notions qui sont nouvelles, on découvre que y a des membranes cellulaires qui interagissent avec des protéines et puis des cascades de réactions intracellulaires dont je ne me doutais pas qu'elles existent. Mmh. Et plutôt difficile de prime abord, mais intéressant dans un deuxième temps à la relecture des cours lorsqu'on prépare les examens. Mais c'était quand même quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé.
Si on revient un peu dans la mise en contexte, tu peux nous rappeler dans quelles années c'était? Parce que en fait, on a l'impression que la physiologie, c'est quelque chose d'assez immuable, mais je pense qu'au fil des années, les points de vue changent sur les mécanismes, même si le fond,
oui,
le fond reste. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le temps, même sur une échelle de temps, on n'est pas non plus extrêmement âgés tous les deux, mais on a déjà eu l'occasion de se rendre compte que la manière d'aborder, la manière de la comprendre, elle se change un petit peu avec le temps. Si tu peux nous resituer un petit peu dans quelles années c'était et qu'est-ce qu'il y a eu comme événements, on va dire, politiques, sociaux, un peu le contexte des actualités de l'époque où tu as fait cet apprentissage. Tu pourrais nous le redire ?
Oui, bien sûr. Si je me souviens bien, j'ai eu mes cours de physiologie en deuxième année. Donc j'ai fait mes études de médecine à l'Université libre de Bruxelles. Mmh. Et le cours de physiologie, me semble-t-il, c'était en deuxième année de médecine.
Ça fait quoi ? C'est quoi, 2002,
je pense que... 2001 même. Okay. Ma première année de médecine était en 2000, puis en 2001, je suis passé en deuxième année.
Ok.
Et, bien, c'est un cours qui est quand même assez dense, comme je le disais tout à l'heure, et c'est vrai que c'est une matière qu'on va peut-être avoir tendance à oublier, puisqu'on a vraiment un volume d'apprentissage qui est très, très, très important. Et au fil des années, ça s'est un peu effiloché. Et lorsque je me suis retrouvé face à des contextes cliniques concrets, mmh. De dysfonctionnement, forcément, là, les questions se posaient à nouveau du style « Mais tiens, comment est-ce que ça fonctionne ? D'abord normalement, et puis pourquoi est-ce que ça ne fonctionne plus correctement ?» Et c'est là que la physiologie redevient intéressante, et c'est là que c'est intéressant de replonger dans des cours qu'on avait parfois laissé prendre un peu la poussière.
Ok.
Pour justement retomber sur la base et se dire voilà le fonctionnement normal et voilà pourquoi est-ce que chez mon patient, donc là on parle plus de physiopathologie, mm-hmm. ça ne fonctionne plus.
Oui, effectivement, là tu mets le doigt sur un sujet vraiment très particulier et très, très spécifique à la médecine, qui est qu'en fait la médecine, on se base sur la physio pour soigner des gens, mais les mécanismes qui font que les gens sont malades ou sont considérés comme tels, ils sont en fait très différents du socle physiologique. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus du tout le même type de raisonnement. On a une base c'est sur laquelle on réfléchit, c'est une sorte de plateau de jeu, mais finalement il y a une technique particulière qui est la pratique de la médecine et la pratique de la physiopathologie, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui font que ça ne se déroule pas comme ça devrait. Et ça, c'est un point vraiment, en fait, c'est ce à quoi on est confronté tous les jours quand on pratique la médecine. Et donc, moi, si je reviens à l'apprentissage, on va terminer cette partie sur cette question, est-ce que tu as en souvenir que l'apprentissage qu'on t'a fait de cette matière de la physiologie, c'est-à-dire le fonctionnement normal, on va dire habituel, dans la loi normale de la description des mécanismes biologiques, est-ce que tu as l'impression que c'était un apprentissage qui était adapté à toi ? Est-ce que tu as l'impression que c'était quelque chose de monolithique qu'on t'a fait avaler au forceps, ou c'était quelque chose dont tu te souviens qu'il y avait des bons passeurs, des gens qui t'ont inculqué ça, ou qui te l'ont appris d'une manière un peu personnalisée, un peu adaptée à l'âge qu'on avait à l'époque, au contexte, à l'environnement dont on était issu. Est-ce que tu penses que c'était un apprentissage adapté à toi ?
Eh bien, pas du tout.
Ça ne m'étonne guère.
Pas du tout. Je pense que chacun a la façon de voir les choses et la façon d'appréhender la vie et les informations. Le cours qu'on a eu dans les auditoires de médecine était assez, comme tu le disais très bien, monolithique. Donc c'est un espèce d'énorme bloc. Il faut réussir à l'avaler, et c'est vrai que c'était pas très facile. Disons que le professeur qui, à mon avis, a fait tout ce qu'il a pu pour nous faire apprécier la physiologie et faire en sorte que ça rentre dans nos petits neurones, n'a pas vraiment réussi à susciter des vocations physiologiques dans l'assemblée.
Ouais, j'ai un peu la même appréciation et appréhension que toi. J'ai pas, à part de rares exemples vraiment qui sont comptent sur le doigt d'une main sur plus d'une décennie d'études quand même, ça fait beaucoup. Mmh. C'est un ratio très faible. J'ai relativement peu d'exemples de grands passeurs qui ont su vraiment trouver les mots et nous faire comprendre exactement les mécanismes. Moi, je dis toujours, il y a les profs qui enseignent comme s'ils l'avaient appris, et il y a des profs qui enseignent la physiologie comme s'ils l'avaient fait eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment la différence. Tu vois, tu sens vraiment que les gens ont tellement compris, tellement intériorisé ce qu'ils racontent, en ont compris et capté toutes les modalités, que ça devient limpide et clair à la première. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare.
Tout à fait. Je rejoins ce que tu dis, puisque moi, je pense être de nature quand même assez passionné. Et donc, de rencontrer quelqu'un qui a une passion pour le sujet qu'il défend à l'oral pendant le cours, je pense que ça m'aurait beaucoup plu et ça m'aurait captivé, on va dire. Mais on nous a délivré le message de la physiologie en médecine de manière assez linéaire, en bloc, et c'est vrai que c'est pas très très stimulant.
Oui.
J'aurais aimé que quelqu'un soit peut-être un peu plus enjoué et qui me fasse part de c'est des anecdotes ou de qui transmettent un peu cette passion qu'il aurait éventuellement eue, mais malheureusement, j'ai pas trouvé l'interlocuteur, du moins en ce qui concerne la physiologie.
Je crois que je suis à peu près d'accord avec toi. En tout cas, c'est l'impression que j'ai aussi. J'y trouve que enseigner, c'est un peu inculquer une matière, mais c'est aussi inculquer une manière de considérer le monde. J'ai des profs qui se disaient ouvertement, je me souviens d'autres profs, dont le message était clair au demeurant, mais qui se disait ouvertement élitiste, qui disait voilà, vous êtes l'élite, et donc j'ai pas à avoir autre chose qu'un discours élitiste et en vous enseignant cette matière. Donc il n'en reste pas moins qu'enseigner, c'est quand même inculquer une manière de voir le monde, de percevoir le monde et les gens qui s'y trouvent, et c'est assez fondateur dans le rapport qu'on aura plus tard au métier de soigner les gens. Mais ça veut pas forcément dire que ces notions sont irrattrapables, et je vais peut-être terminer là-dessus pour savoir, est-ce que tu considères que tu t'es émancipé de cet apprentissage, que tu l'as un peu fait tien par certains côtés, et si oui, lesquels ?
Je dirais que oui, puisque très récemment, je me suis intéressé à l'altitude, puisque j'ai eu la chance et j'ai encore la chance de superviser des événements sportifs à l'étranger.
Ouais.
Et il se trouve qu'il y a quelques années, on m'a proposé d'encadrer un événement sportif en Argentine.
Ok.
Qui nous a amené jusque presque 5000 mètres d'altitude. Alors, c'était un événement motorisé, donc on n'avait pas d'exercice physique à faire en très haute altitude. Cependant, on était quand même confronté à tous les effets physiologiques de l'altitude. Et avant de me lancer dans cet événement, j'ai quand même... je me suis renseigné sur qu'est-ce que l'altitude fait au corps. Il y a toute une médecine d'altitude qui existe, et donc j'ai trouvé un énorme intérêt... dans ce sujet-là, et forcément, ça m'a fait revenir aux bases de la physiologie respiratoire et de l'adaptation du corps à des pressions qui sont nettement moindres lorsqu'on se trouve à 5000 mètres. Donc ce regain d'intérêt, il est assez vif et il est assez récent, et ça fait du bien de se replonger dans des notions qu'on a perdues, qu'on n'a plus vraiment soulevées depuis un petit temps, pour se cultiver à nouveau et se sentir utile à nouveau. We'll be right back.
Bien voilà, on va passer à la séquence suivante dans cette émission, je le rappelle, hors série d'une fable du squelette sur Radio Panique. D'habitude, dans l'émission, on va dire formule classique, l'émission que je fais habituellement, mensuellement, elle est assez portée sur une structure un peu narrative, une structure, une histoire racontée, imagée, un peu sur la forme du conte au sens très large, c'est-à-dire des narratifs dans lesquels j'implique une grande dimension presque fabuleuse, un peu presque fantastique. Moi, j'aime tenter parfois de me rappeler, c'est un effort que je dois faire, à quel point les mécanismes qui nous permettent d'exister, les mécanismes physiologiques, sont incroyablement précis et fins, originaux, imaginatifs ou encore violents et ravageurs. Ça dépend de ce dont on parle et ce dont il est question. Moi, par exemple, l'hémoglobine ou des fonctionnements allostériques de la molécule d'hémoglobine, ça, je trouve ça passionnant. Des choses, un peu des points de détail, mais je trouve que c'est tellement beau et tellement, je sais pas, il y a quelque chose de visuellement et dans cette adaptabilité vraiment fascinant. Et donc, voilà, puisqu'on en vient à ton moment, c'est quoi pour toi ton fétiche en physiologie? Par exemple, si on reprend l'exemple de la physiologie, l'adaptation du corps en altitude ou ce qu'on appelle la médecine hypobarique. Vas-y, je te laisse parler.
Merci Thomas. Mais écoute, tout ce que tu dis me parle beaucoup puisque très récemment, j'ai eu l'immense chance de visiter le Népal avec quelques amis. Donc on a fait une dizaine de jours de marche jusqu'en très haute altitude puisque l'altitude maximale qu'on a atteint était 5160 mètres.
Bel effort, bel effort.
Merci beaucoup, c'était pas évident. Et tu parlais de la beauté de la physiologie, de la beauté de l'adaptation, et c'est un peu ce qu'on a vécu, puisque notre corps nous a permis, en s'adaptant, de découvrir des paysages absolument incroyables et de ressentir cette expérience presque holistique, presque surnaturel de se retrouver en si haute altitude, proche des cieux, à respirer un peu bizarrement et à ressentir des choses qu'on n'a pas l'habitude de ressentir quand on est au plancher des vaches. Et c'est vrai que là, la physiologie et l'adaptation de ce corps à l'altitude était quelque chose d'assez intéressant, de très intriguant même, et d'une certaine manière d'assez beau, puisque ça nous permettait d'être là et de profiter de tout ce qu'on voyait.
Et qu'est-ce que tu en as, on va dire la substantifique moelle de tout ça, qu'est-ce que tu en, si tu devais par exemple décrire de quelle manière, avec des mots simples et faciles, ce qui t'a marqué dans cette adaptation, que c'est très important parce que c'est très intéressant, que tu as vécu toi-même. Moi j'aime bien ça aussi, le fait de toujours partir de ce qu'on ressent en tant que conscience du corps, ça, on y viendra plus tard, mais dans la pratique de la danse ou dans la pratique sportive, on a, même si je ne suis pas moi-même un grand sportif ni un grand danseur, mais disons que je vis quotidiennement comme à peu près tout le monde, il y a une relation physique qu'on a à notre corps, et dans ce que notre corps nous dit et ce que notre corps nous fait savoir. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais concernant justement ces adaptations physiologiques de la haute altitude que tu viens de décrire, qu'est-ce qui te semble, si tu devais décrire le mécanisme, la sensation corrélée au mécanisme d'adaptation de la haute altitude, comment tu la décrirais et comment tu l'expliquerais à nos auditeurs et nos auditrices qui ne sont pas forcément versés dans la physiologie de haute montagne?
Je dirais que nous sommes une machine assez incroyable. Puisque de partir d'une altitude assez basse et de respirer confortablement, de se retrouver progressivement en haute altitude avec le souffle qui devient court, les efforts physiques qui deviennent de plus en plus difficiles, et voir que par certains mécanismes, le corps arrive à faire avec ses contraintes et faire en sorte qu'on puisse continuer. Il y a quelque part une sorte de beauté, une sorte d'alchimie mécanico-chimique qui se fait à l'intérieur de nous et qui fait qu'on arrive à avancer. C'est des expériences qui sont très intéressantes parce que on se retrouve très haut, on se retrouve en difficulté, il fait froid, il y a du vent, il y a peu de pression partielle en oxygène, puisque la couche d'atmosphère qui se trouve au-dessus de notre tête est largement diminuée, et de sentir que le souffle devient de plus en plus difficile, qu'on se met à respirer plus rapidement, qu'on se met à avoir parfois l'esprit qui vagabonde, etc. Et puis tout d'un coup, on arrive au sommet, et là, on reprend ses esprits, on réalise tout ce qu'on a fait, on voit que le corps finalement tient le coup, et c'est le moment du partage avec les collègues avec qui je grimpais, et avec les autres personnes qui nous précédaient ou qui étaient juste derrière nous.
Tu l'as dit, justement, il y a justement sur le plan vraiment de la physiologie, il faut savoir pour les auditeurs et les auditrices que la concentration en oxygène, la concentration dans le sang en oxygène dépend indirectement de la pression partielle d'oxygène. Et la pression partielle, elle est corrélée à la pression de l'air extérieur. Donc, c'est-à-dire qu'à 5000 mètres, je me situe un petit peu, à 5000 mètres, le poids, on va dire, le poids de l'atmosphère sur nous, c'est-à-dire la pression qu'exerce l'atmosphère sur nos corps, ce sur quoi on vit en permanence sans s'en rendre compte depuis qu'on est né, elle est divisée par deux. Et c'est donc, en fait, la pression partielle d'oxygène, puisqu'elle en est directement tributaire, elle est aussi divisée par deux. En gros, il y a plein de mécanismes d'adaptation qui vont pouvoir faire en sorte qu'on continue à avoir de l'oxygène dans le sang et que l'oxygène soit toujours apporté aux tissus et au cerveau, ce qui va nous permettre de penser, de marcher, d'exercer nos capacités intellectuelles et physiques, mais ça, c'est tributaire de certains moyens d'adaptation, puisqu'on considère que la pression partielle est deux fois moins importante. Ça va nécessiter des mécanismes d'adaptation. Est-ce que tu pourrais expliquer ces mécanismes d'adaptation ou je te prends trop au dépourvu
pour... Non, pas du tout. Le premier mécanisme d'adaptation, c'est la polypnée, c'est-à-dire le rythme respiratoire qui s'accélère et qui va faire que on respire plus rapidement, on utilise nos poumons avec un peu plus d'insistance. Et du fait de cette augmentation de rythme respiratoire, il va y avoir des modifications des gaz qui sont dissous à l'intérieur du sang, et le corps va capter ces modifications et va encore réagir et déclencher d'autres mécanismes en réponse à cette modification, à cette nouvelle contrainte. Alors c'est vrai que c'est un... Puisqu'on parle de physiologie, on peut aussi parler de physiopathologie, puisque y a parfois des événements qui sont indésirables qui peuvent arriver. C'est pas sans risque de monter en altitude aussi haut. Je pense à l'œdème cérébral de haute altitude et l'œdème pulmonaire de haute altitude, donc simplement le cerveau qui se met à gonfler et de l'eau à l'intérieur des poumons. Donc ça, c'est la contrainte extrême, le manque justement d'adaptation à l'altitude, mais qui arrive quand même assez tard dans la liste des symptômes et des diagnostics qu'on peut ressentir en altitude. C'est vivre cette expérience d'adaptation et de voir que le corps arrive à trouver des ressources pour continuer à avancer. C'est ça que je trouvais assez, assez fabuleux.
Ok, merci pour cette excellente description et excellente mise en image d'un mécanisme adaptatif. C'est vraiment très chouette, puisque moi aussi c'est une partie de la physiologie qui me passionne. Toi Nicolas, tu es un peu passionné par la haute altitude et moi c'est par les basses altitudes, les profondeurs. Moi je suis plutôt dans le phénomène inverse. Donc, quand on plonge dans l'eau, quand on est dans des atmosphères de grande profondeur aquatique, ce qui revient un peu au même. Il y a toute une variation de la pathologie, mais finalement, les mécanismes s'expliquent par les mêmes lois. Voilà, alors on va pouvoir passer à la séquence suivante, qui est directement en lien avec la précédente. Puisque si je dois la mettre en contexte, moi il y a une phrase que j'ai déjà citée. Je me souviens très bien de où et quand on m'a sorti cette phrase pour la première fois. Je crois que c'était en première année, il y a longtemps, où on avait un cours de dimension psychosociale de la santé où, est arrivée sur le tapis cette phrase qu'on doit au chirurgien vasculaire français René Le Riche dans les années 30 qui dit « La santé, c'est la vie dans le silence des organes ». Bon, la formule est un peu lapidaire, je la trouve un peu, c'est un peu dur, c'est presque une sentencia à la mode latine, mais il y a quelque chose de vrai dans la manière dont on nous a inculqué le normal et le pathologique. La manière dont on conçoit la maladie et on conçoit le vivant en bonne santé. Or, moi, il me semble que, au fur et à mesure de mon activité médicale et de mon existence tout court, il me semble qu'en fait, c'est pas vrai du tout. Dans le sens où le corps, il s'exprime en permanence. Il n'y a pas un jour où on n'est pas, il y a pas un jour ou une minute où on n'est pas conscience, plus ou moins une conscience plus ou moins élargie de ce que nous renvoient les signaux que nous renvoie notre corps dans n'importe quelle circonstance. Je ne pense pas que la santé, ça soit la vie dans le silence des organes. Les organes ne s'éteignent jamais, ne se mettent jamais en veille. Et donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir un peu comment s'inscrire en faux par rapport à cette vision qui est quand même très fondatrice de notre perception, on va dire, occidentale, en tout cas de la manière dont on a de pratiquer la médecine et de concevoir la maladie. Donc, toi, en particulier, tu es quelqu'un qui utilise son corps d'une manière particulière en tant que randonneur de haute altitude, en tant que danseur aussi. Et je voulais savoir un petit peu comment tu fais de manière tout à fait personnelle et singulière, comment tu uses ou comment tu ressens les messages que ton corps t'envoie et dans quelle mesure ils sont fondateurs de la vision que tu as de ton corps dans l'espace, qu'on appelle la proprioception, et la manière que tu as d'utiliser cette proprioception pour ces activités artistiques ou sportives.
Alors c'est un vaste sujet, je trouve, mais je vais essayer de répondre à ta question du mieux que je peux. C'est vrai que j'ai la chance de par mes expériences mais d'utiliser mon corps pour danser, donc pour faire passer un message, pour m'exprimer et transmettre des émotions de par la marche. C'est encore un autre ressenti sur qu'est-ce que je ressens, quelle est ma position dans l'espace, comment est-ce que je vais positionner mon pied, qu'est-ce que me renvoie mon pied comme information pour éviter que je ne tombe dans un ravin. Et pour revenir à la danse, c'est vrai que je suis quand même assez à l'écoute de ce que mon corps me renvoie comme information. La danse, c'est un processus qui est un peu particulier puisque on apprend généralement des chorégraphies, on apprend tout un tas de choses. Et puis, une fois qu'on a enregistré les mouvements, qui sont somme toute assez basiques, je pense que tout le monde avec un peu d'entraînement peut réussir à faire des mouvements, vient le fait de transmettre quelque chose. Et c'est là que l'écoute du corps devient assez intéressante, puisque ça m'arrive très souvent de ne plus regarder mon reflet dans le miroir, parfois même de ne pas fermer les yeux, mais c'est comme si je fermais les yeux, et de dire, voilà, je sais que mon bras est positionné à tel endroit, je sais que mon visage ressemble à ça, et je sais que c'est cette intention que j'ai envie de transmettre. Donc le rapport à l'écoute du corps dans la danse, il est très important, puisque ça permet d'aller chercher au fond des émotions qu'on a envie de transmettre à une audience. Et c'est quelque chose que le danseur doit faire, c'est savoir se sonder, savoir bien écouter ce qu'il ressent pour pouvoir le transmettre. Et ça marche aussi dans la douleur. Je me rappelle d'un show que je répétais avec ma partenaire de danse et je me suis un peu blessé à l'épaule. Et de là vient l'écoute aussi de mais jusqu'où je peux aller dans mon effort, jusqu'où je peux aller dans la transmission des émotions que je veux transmettre à la salle, au public, en ayant une douleur assez importante. Donc je vois un parallèle très important dans ce que je vis dans le milieu artistique et ce que je vis dans le milieu médical, c'est que dans le milieu médical, je vois beaucoup de personnes qui ont perdu cette faculté d'écouter leur corps et qui finalement ne se respectent pas. Et je pense que c'est un des mécanismes qui amène vers la physiopathologie et qui fait que on se retrouve avec des personnes à soigner.
Tout à fait, oui, je crois que je suis un peu de ton avis, dans le sens où, pour rebondir sur ce que tu disais en première partie d'intervention, il y a effectivement, J'imagine que cette conscience que tu as de ton corps dans l'espace, c'est un apprentissage. J'imagine que tu as appris à le considérer et je suppose que l'apprentissage n'est pas fini. Est-ce que tu considères que tu as les bases, les jalons sont donnés, sont posés et que maintenant tu utilises tout ça de manière tout à fait virtuose ou tu te donnes encore une marge de progression dans la manière dont tu peux affiner cette sensation de ton corps et de cette disposition et de savoir où sont tes limites, ce que tu peux faire. Dans ma pratique, moi je suis musicien et je sais que je vois au fur et à mesure des années qu'il y a une évolution dans la pratique que j'ai de, je suis pianiste donc de mes doigts dans le sens où j'arrive à savoir où ils sont positionnés, j'ai plus besoin de me concentrer de la même manière, mais j'ai quand même une marge de progression, il y a quelque chose qui est un état de perpétuel apprentissage. Est-ce que tu considères que c'est encore le cas pour toi?
Oui, absolument. Je considère qu'on, par mes expériences et par l'apprentissage que j'ai reçu en danse et aussi en musique, puisque si tu es pianiste, moi je suis guitariste, pas aussi bon que j'aimerais l'être, mais si tu me donnes une guitare, je jouerai de la guitare. Donc je considère qu'on m'a transmis un socle sur lequel moi je peux commencer à construire des choses, construire des émotions, construire des sensations, des ressentis. Et c'est un travail permanent. Je pense qu'un danseur, un médecin, un guitariste, un pianiste qui arrive en disant « Moi, je sais tout sur tout, j'ai tout appris, j'ai plus rien à apprendre », je me demande si cette personne ne va pas tout doucement s'éteindre.
Oui, je pense aussi. Dans le sens où sinon, ce n'est pas très intéressant. Je pense qu'il y a toujours une marge de progression.
Tout à fait. Et puis, c'est aussi très tributaire des rencontres qu'on fait. Si on revient au milieu de la danse, chaque chorégraphe a sa patte, sa touche, sa sensibilité, son univers. Et donc, ça fait que c'est tout un nouveau monde à découvrir. Donc, avoir ce socle de se dire « je suis à l'écoute de mon corps, je sais où se trouvent mes bras, je sais où se trouvent mes jambes, etc. Je sais comment me mouvoir dans l'espace », c'est la base. Et puis, la construction se fait sur comment est-ce que je peux affiner certaines choses, comment est-ce que je peux transmettre encore d'autres sensibilités par rapport à celles que j'ai reçues de la part d'un chorégraphe ou d'un metteur en scène ou d'un directeur artistique. Donc la base, oui, j'ai réussi à l'acquérir avec toutes les années de pratique que j'ai eues, mais c'est encore un travail quotidien que de se renouveler et se réapproprier encore des énergies qui étaient jusque-là inconnues.
Pour revenir à ce que tu abordais dans la fin de ton intervention, je pensais à la manière dont tu disais, en médecine, on est souvent confronté à des gens qui ne s'écoutent pas, ou ne s'écoutent plus, ou n'ont pas appris à le faire, ou ne savent pas le faire. Je me permets un petit moment citationnel pour introduire un truc qui n'a rien à voir. J'avais mis dans le conducteur de l'émission, je pense à cet aphorisme d'Oscar Wilde qui dit « Je vis tellement au-dessus de mes moyens qu'en vérité, eux et moi, nous avons des existences complètement séparées. » Là, il ne s'agit pas de vivre au-dessus de ses moyens, il s'agit de vivre à côté de son corps. Et de la même manière, je trouve que correspond bien, il y a un état de fait qui fait que des gens viennent nous consulter parce qu'ils ils ont usé leur corps. Mais ça peut tout à fait... Il y a des gens qui vivent dans l'ignorance ou le déni complet de leur corps, parfois parce qu'ils n'ont pas d'autre choix quand leur corps est leur seule ressource de travail ou de subsistance. Ça implique peut-être presque un rapport d'une certaine rapport de classe. Est-ce que... Ça, c'est un peu la question sociopolitique. Est-ce que c'est un truc de nanti? Est-ce que c'est un truc de riche d'avoir la possibilité de s'écouter? Ou est-ce que, je sais pas, quel est ton, c'est un peu lapidaire dit comme ça, mais cette conscience du corps, est-ce qu'il est loisible à tous et à toutes de l'appliquer?
Alors je ne sais pas si j'ai les capacités sociales, on va dire, de répondre correctement à cette question. Ce que je peux te dire par contre, c'est que je rejoins ce que tu dis concernant certaines personnes qui sont dans le milieu du travail manuel, qui doivent utiliser leur corps pour gagner gagner leur pain et manger et vivre, tout simplement. Et c'est vrai que quand le corps s'use et que ça ne leur permet plus de travailler, ça pose d'énormes problèmes. Je suis plutôt partisan de ceux qui pensent que tout est une question de choix et que, ayant eu des difficultés quand même pour arriver jusque là où je suis, donc je ne suis pas né dans un milieu archi-aisé avec des facilités pas possibles. J'ai plutôt eu des difficultés justement pour garder la tête hors de l'eau pendant mes études. Je pense qu'à un moment, je faisais 4 jobs étudiants pour pouvoir payer ci, ça et là. Donc je pense aussi que c'est une histoire de choix personnel. Sans pour autant dénigrer quoi que ce soit, mais je pense que chacun a le... On est avec un libre arbitre, du moins en Europe, je pense, et chacun a la possibilité de faire ce qu'il a vraiment envie d'être. Donc le tout est de savoir s'écouter et de se dire, si c'est ça que je veux faire, alors je m'en donne les moyens.
Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le sujet.
Encore une fois, je suis peut-être très mauvais sociologue.
Je ne pense pas. Je pense que le libre arbitre est peut-être un peu moins évident que ce qu'on veut bien le laisser penser. Mais c'est ton avis personnel. Je t'en sais gré. En tout cas, merci pour ta réponse.
Avec
même
plaisir.
Si je crois qu'en effet, on est quand même souvent confronté à des patients et des patientes qui font état d'une manière très dommageable d'une certaine usure.
Oui, c'est fou, c'est même très triste à voir, hein, de voir des personnes qui ont vraiment perdu cette capacité d'écoute, et ça engendre des comportements qui sont aberrants et qui mènent jusqu'à des maladies que nous, on essaye de soigner. Mais je pense que le côté curatif que nous, on essaye d'apporter à nos patients, enfin du moins aux urgences, c'est quand même pas très facile, puisqu'on a nos patients entre les mains pendant très peu de temps. Et je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a aussi le volet psychologique à aborder, qui est difficile à aborder aux urgences, je trouve, et qui pourtant a tout son fondement, puisque dans certaines situations, ou dans la grande majorité des situations, on est face à des personnes qui ont perdu leur capacité d'écoute, qui ont commencé à agir d'une certaine manière ou d'une autre, qui ont commencé à nuire à leur santé. Et donc pour moi, c'est aussi intéressant, sur le point de vue strictement curatif, de proposer des solutions, mais aussi d'aller gratter un peu plus loin et de voir où est la genèse, finalement, de ce dysfonctionnement.
On va passer, je pense qu'on va, il y aura une petite pause musicale, et ensuite on passera à la dernière partie de cette émission hors série. On se retrouve dans quelques minutes. Wake up, grab a brush and put a little makeup. I discussed to fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. I discussed to fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry, an angel's deserve to die. And put a little makeup. I disguise to fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? Here you go, create another fable. Grab a brush and put a little makeup. I disguise to fade away the shake-up. Why'd you leave the keys upon the table? I don't think you trust in my self-righteous suicide. I cry, on angels deserve to die. My self-righteous suicide.
forsaken me. In your heart forsaken me. In your eyes forsaken me. In your thoughts forsaken me. In your heart forsaken me.
Voilà, on approche tout doucement de la fin de cette émission. Nous sommes toujours avec le docteur Nicolas Bantin, qui est mon invité aujourd'hui pour cette formule hors-série d'une fable du squelette. Je voulais peut-être finir cette émission, Nicolas, en poussant un peu plus le rapport qu'on peut avoir par rapport à l'art et par rapport à la chose artistique, dont je sais que tu es très féru. Je voulais savoir par rapport dans le champ, moi, dans le champ que j'aime bien, qui est le champ du cinéma, est-ce qu'il y a une œuvre dans laquelle tu trouves un abord justement physiologique, synesthésique, c'est-à-dire dans le sens où l'aspect sensuel, l'aspect des sens est extrêmement direct. Il y a un rapport, on va dire, d'agentivité direct entre les images que tu vois ou ce que tu vois et la manière dont ton corps te le ressent. Il y a une communication directe. Moi, j'ai un certain nombre de films qui me font cet effet, de par la mise en scène, de par la manière dont les images se répondent. Est-ce que toi, on va dire dans l'aspect cinématographique en général, il y a quelque chose qui te parle à ce niveau ?
Oui, absolument. Je pense à la musique. Donc, c'est vrai que je n'ai peut-être pas cette sensibilité visuelle, donc de voir une scène, de voir une image, va peut-être un peu moins me parler qu'une mélodie qui va venir se glisser dans le creux de mon oreille. Et c'est vrai que j'ai découvert assez tôt cette capacité à me laisser envahir par une mélodie et à me laisser toucher en profondeur et à ressentir le corps qui réagit. Ça peut être des poils qui se hérissent sur les bras, ça peut être une sensation de fraîcheur entre les omoplates. Ça peut parfois aller jusqu'à, simplement en entendant de la musique, même en l'écoutant dans mes écouteurs sans avoir le contenu visuel, ça peut parfois aller jusqu'à me tirer une larme parce que j'arrive à me laisser envahir et le corps répond à cet envahissement parfois assez brutal qui fait que, on ressent les choses et on vibre physiquement d'une certaine manière en réponse.
Je suis d'accord avec toi. Moi, ça me fait penser ce que tu dis à un psychologue du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui s'appelait William James, qui est le frère du romancier Henry James, qui avait proposé l'hypothèse que, par exemple, c'est la réaction physique qui suscite le sentiment et pas l'inverse. C'est-à-dire que on pleure pas parce qu'on est triste, mais on est triste parce qu'on pleure, ou on est ému parce qu'on pleure et pas l'inverse. Et je pense que ce que tu dis résonne un peu avec ça, c'est-à-dire que tu ressens d'abord quelque chose physiquement et ensuite on l'internalise, on l'intellectualise et on dit ça c'est une émotion de tel type et ça c'est une réaction, ça suscite tel et tel souvenir en moi. Mais il est tout à fait envisageable qu'au premier chef, on est d'abord une réaction physique qui suscite ensuite une émotion qu'on intellectualise dans un troisième temps. Et je suis tout à fait, on va dire, ça me touche beaucoup que tu aies fait cette remarque.
Ah, voilà. Je t'en prie.
Ok, eh bien je te remercie Nicolas, merci beaucoup de t'être prêté au jeu de l'interview pour cette première formule hors série de cette émission mensuelle, une fable du squelette sur Radio Panique. Merci Nicolas.
Merci à toi Thomas, avec grand plaisir.
Voilà, auditeur, auditrice, tu viens d'écouter une nouvelle fable du squelette, et je t'en remercie. Merci encore à Nicolas Bantin de s'être prêté au jeu de l'interview. Tu pourras retrouver toutes les références de la bibliographie s'il y en a, et des extraits et des musiques diffusées dans cet épisode sur la page de l'émission à l'adresse radiopanique.org. En ce qui nous concerne, on se retrouve le mois prochain pour une émission dans son format habituel. D'ici là, passe un bon week-end. Et j'espère à bientôt.